Eh bien, oui, j'ai été en effet tout à fait heureux ce matin que des interventions des anciens étudiants. Je voudrais quand même mentionner, je le dis
Oui,
aussi en
je vous
pensant
en prie.
à ce que tu me disais, à une étudiante remarquable que nous avons eue dans ce département, qui est sans doute une des étudiantes les plus exceptionnelles que nous ayons eues. Et elle avait commencé un travail de thèse avec moi sur le corps. Et pour compléter sa formation sociologique, elle avait entrepris une licence de philosophie et travaillait sur Merleau-Ponty. Et c'était quelqu'un qui était plein d'avenir. Elle était d'origine franco-africaine. Et d'ailleurs, son père était d'origine. Comment, pas bushman, mais comment, pygmée. Pygmée. Et suite à un accident vasculaire, elle est morte brutalement. Elle s'appelait Isabelle Zocken. Et donc, je m'associe à ce que tu me
Oui.
disais. Je crois qu'on peut faire mémoire de son souvenir dans cette circonstance. Son départ nous a privés de quelqu'un qui était plein d'avenir et de promesses. Bon, voilà. Alors oui, donc archéologie de la religion et mutation contemporaine, grand écart et convergence dans un monde du risque. Alors je vais commencer par quelques réflexions sur ce que j'appelle le grand écart. La démarche archéologique et la réflexion sur le monde contemporain paraissent deux directions de pensée complètement opposées, comme deux marcheurs qui se tourneraient le dos. Alors je préfère penser au contraire qu'ils sont complémentaires. Comme ce que Balandier appelle le détour, quand on réfléchit dans l'espace, et c'est surtout les ethnologues qui parlent du détour, et ce que j'appelle le grand écart, quand on réfléchit dans le temps. Et je pense que nous devons combiner le détour et le grand écart. Et d'abord parce que les fondateurs de la sociologie en ont eu tout à fait conscience. Durkheim, Mauss, Weber l'ont pratiqué. Et ce n'est pas du tout un hasard. Si c'est dans le champ de la sociologie de la religion que le détour et le grand écart est le plus manifeste. Cette double contrainte pèse, je crois, sur la socio-anthropologie. Et elle en fait partie. Elle fait partie de cette démarche comme telle. Et je dirais, la socio-anthropologie, c'est une réflexion sur le présent qui appelle le plus grand détour par les civilisations ou les cultures les plus lointaines ou par le passé le plus profond. Et de ce point de vue-là, ça marque, si vous voulez, moi j'essaie de redialectiser le structuralisme. Le structuralisme, c'est la promesse de la synchronie, de penser les faits sociaux uniquement dans la dimension synchronique. Il faut les soumettre à cette contrainte, hein. Il faut essayer de les enfermer dans la synchronie pour découvrir les systèmes. Mais il y a toujours un moment où on se rend compte que ça éclate, que les faits ne rentrent pas dans cette contrainte, et on voit ressurgir la diachronie et le besoin de repenser aussi la diachronie. Ça ne veut pas dire qu'il faut refaire une philosophie de l'histoire. Tout le débat est sans doute là. D'autre part, le grand écart, en fait, il a peut-être été anticipé, sous bien d'autres formes, évidemment, à d'autres époques, par d'autres penseurs. Mais aujourd'hui, et ce qui en fait la difficulté, c'est que le détour est devenu beaucoup plus grand, puisque nous sommes dans un monde qui se resserre, hein, et que par cet accroissement de notre échelle, qui devient aujourd'hui une échelle mondiale, comment réfléchir à une culture, à une société, au devenir d'une religion, sans voir que c'est simplement une petite pièce dans ce grand puzzle de la mondialisation contemporaine. Et d'autre part, l'allongement des durées a pris aujourd'hui une dimension astronomique. Enfin, qu'est-ce que c'est que la vie humaine, hein, la vie d'un individu, la vie d'une société, aujourd'hui, dans la vie du monde, de la Terre, de la planète. On ne peut pas faire complètement abstraction de cette très longue durée. Et je pense aujourd'hui que le grand écart et le détour doivent nous renseigner sur notre condition et qu'y réfléchir, c'est peut-être une des conditions de notre survie. Je proposerai en conclusion que nous avons à réfléchir à ce que j'appelle l'hétérogénéité des durées. Nous sommes dans des durées multiples et qui ne sont pas totalement commensurables. Et notre tendance est au contraire de réduire cette hétérogénéité. Je pense que le grand risque, peut-être le plus grand risque auquel est affrontée notre société aujourd'hui, c'est la réduction de l'hétérogénéité des durées à ce que j'appelle le présentisme. Hein, et que ça, c'est ça, c'est par ce biais-là que nous pouvons peut-être reposer les termes d'une réflexion sur les conditions de notre survie, sur la hiérarchie des risques qui nous menacent et sur les voies à prendre pour y échapper. Et donc, mais avant d'aller à ce but, qui sera la conclusion de mon propos, je dois vous inviter à réfléchir à quelques mutations de la modernité contemporaine. Et je n'en prendrai que trois, qui nous concernent directement comme sociologue de la religion. D'abord, au fond, la mutation de la sociologie de la religion elle-même, avec le débat autour du paradigme qui l'a dominé, qui est celui de la sécularisation, avec le débat sur le retour réel ou supposé ou mal dit de la religion. Donc, sécularisation, retour du religieux. Deuxième thème, la certaine mutation des objets, quand même depuis 30 ans, c'est des objets un peu nouveaux qui se sont passés au premier plan. C'est plus des objets tout à fait classiques, mais c'est ce qu'on a appelé les intégrismes, les fondamentalismes et l'individualisation du religieux. Et la troisième mutation que je voudrais dire, qui me paraît plus fondamentale encore derrière ça, c'est ce que j'appellerais la mutation problématologique et pharmacologique de la modernité elle-même. Alors, ça nous amènera à réfléchir aux dimensions du problème que j'appelle pharmacologique, j'y ferai une allusion, et j'esquisserai en conclusion les conséquences de tout cela pour un certain dialogue, si vous voulez, des religions et des civilisations, puisque certains nous ont promis le clash des civilisations, réfléchir au fait pourquoi c'est très difficile le dialogue des religions, je le crois vraiment, mais ça n'est pas une tâche impossible. Et donc, si ce matin les termes clés furent question ou problématologie et archéologie, cet après-midi les termes clés seront pharmacologie et modernité. Alors, repartons donc de choses très banales, hein, qui sont dites et écrites depuis fort longtemps dans un tas de secteurs, mais on va les mettre en perspective. Sécularisation et ou retour de la religion, ou l'ébranlement du cadre d'interprétation. Donc la sociologie de la religion, vous le savez, s'est élaborée depuis un siècle au sein d'un paradigme qu'on peut dire de la sécularisation, qui s'est mis en place essentiellement entre les grands fondateurs, donc Durkheim et Mauss, au début du XXe siècle, et le milieu du XXe siècle. Enfin, on pourrait citer Talcott Parsons dans les années 50, dans le cadre d'une sociologie à la fois évolutionniste et fonctionnaliste, cherchant la synthèse entre évolutionnisme et fonctionnalisme, et qui a servi de cadre à d'innombrables études empiriques, alors vraiment innombrables. Mais, vous le savez, depuis une trentaine d'années, on parle de retour des religions à partir de très nombreux faits, la pluralisation des acteurs religieux dans nos sociétés, comme l'islam ou le bouddhisme, des événements aussi complexes que la révolution iranienne, qui a quand même surpris tout le monde, et ses multiples effets dans le monde entier, c'est un événement d'une portée mondiale. Bon, l'audience de personnalités religieuses, aussi bien, je ne sais pas, le Dalai Lama que Jean-Paul II, par exemple, le rôle des religions dans la chute du communisme, hein, c'était quand même l'inverse qui était prévu. Tout le monde pensait que c'est... Enfin, le communisme pensait que c'est lui qui viendrait à bout des religions. Hein, la multiplication des sectes, hein, la demande de spiritualité, la constitution d'une sorte de marché mondial du religieux, le succès sur les 5 continents, hein, des évangélismes, hein, penser que voilà une forme de protestantisme qui, en un siècle, a sans doute gagné à peu près 500... Bon, les appartenances sont fluides, complexes, tout ce qu'on voudra, mais qui touchent sans doute 500 millions de personnes. C'est quand même un phénomène mondial considérable. Alors, ces faits sont évidemment hétéroclites. Hein, je crois qu'il ne faut quand même pas l'oublier, ils ne sont pas de même nature. Hein, l'évangélisme et la révolution iranienne, c'est des phénomènes extrêmement lointains. Il ne faut pas les rapprocher trop vite, hein, ils sont hétéroclites, mais néanmoins, ils ont quand même un trait, c'est qu'ils font époque. Ils font époque et marquent le monde dans lequel nous sommes. Alors, est-ce qu'ils nous obligent, comme certains le penseraient, à abandonner le paradigme de la sécularisation? Alors, à mon avis, il faut quand même d'abord essayer d'être plus précis voire de faire une sociologie du discours du retour du religieux. Et d'abord en trouver les couches porteuses, hein, comme dirait Weber. Et pour être très simplificateur, parce que je ne peux pas aller plus dans le détail ici, ils se répartissent entre deux positions tout à fait différentes. Il y a, à mon avis, deux styles complètement différents du discours du retour du religieux. D'un côté, par exemple, surtout dans les médias, hein, grand public, moderniste, pour qui le retour du religieux est d'abord un scoop sur l'étrange, l'exotique ou le violent, et qui est en général présenté comme une menace pour les lumières, les libertés individuelles, une atteinte au progrès, une espèce d'histoire devenue folle qui marche à l'envers. Et puis de l'autre côté, vous avez des positions qu'on peut dire entre guillemets religieuses, qui voient dans le retour du religieux un retour à la normale, que l'homme est un animal religiosus, enfin un animal religieux. Le retour du religieux, c'est la modernité qui était un peu à côté de ses pompes et qui se trompait sur la nature des choses. Alors, là encore, il y aurait des variantes multiples à l'intérieur de cette version religieuse, les uns au nom donc d'une espèce de nature religieuse de l'homme, les autres au nom carrément d'une revanche dans des discours de type intégriste où les religions auraient une revanche à prendre sur une modernité néfaste. Mais enfin, il y a tout de même ces deux types-là. Or, vous voyez que sociologiquement et idéologiquement, ils sont très, très différents. Alors, personnellement, je conteste l'expression de retour du religieux, qui me paraît manquer de rigueur. D'abord, parce que le religieux n'est quand même jamais complètement parti. Le fait qu'on veuille pas le voir ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Hein. En revanche, il est en effet beaucoup plus visible aujourd'hui. C'est incontestable, surtout dans les sociétés occidentales, et surtout beaucoup plus débattu. Ça, c'est quand même, me semble-t-il, la grande nouveauté, en fait, et surtout un débat autour du religieux. Hein, on en parle. Alors comment, pourquoi, mais cette espèce de prise de parole autour de la religion est aujourd'hui un phénomène incontestable. C'est le phénomène le plus fort. Alors, ceci dit, si je conteste l'expression, c'est parce que je ne crois pas du tout que c'est le religieux de toujours qui revient à l'identique. Le grand risque du discours du retour du religieux, c'est l'essentialisation positive chez les religieux ou négative chez les critiques ou les anti-religieux du religieux. Mais c'est la même erreur. C'est la même erreur, sauf que ce n'est pas le même positionnement vis-à-vis d'elle. Hein, les adeptes, comme les adversaires, sont sans doute exposés à ce risque d'essentialisation. Alors que, me semble-t-il, le travail du sociologue, en tant que sociologue, j'admets tout à fait qu'on soit philosophe de la religion ou de l'athéisme, ou qu'on soit théologien. Moi, je n'ai rien contre ces pratiques, bien au contraire, mais ce n'est pas le travail du sociologue qui doit se substituer à eux. Et le travail du sociologue, c'est de réfléchir précisément d'abord à l'historicité de ces faits. Pourquoi maintenant? C'est la première question. Hein, pourquoi maintenant? Pourquoi ici et là? Hein, maintenant. Pourquoi ici et là maintenant? Hein, c'est ça la première question. Et avant tout discours sur le retour ou l'éternité du religieux, hein, je dirais, la charge de la preuve doit être chez celui qui affirme que c'est le même religieux qui revient. Le sociologue doit partir avec une sorte, d'a priori, de réfléchir sur la contextualisation de ces phénomènes. Il faut obliger la conscience religieuse, si je puis dire, à se recontextualiser. Pour moi, c'est ça le travail du sociologue. Hein. Parce que vous savez, l'esprit humain est spontanément extraverti. Hein. Moi, je crois, comme Aristote et saint Thomas, que « mens humana est quodam modo omnia ». Alors, hein, l'esprit humain est d'une certaine façon toute chose. Et il se projette sur les choses. Mais quand il se projette sur les choses, il oublie son point d'origine. Il oublie son point de départ. Il oublie son inscription contextuelle. Vous voyez, hein, l'homme se rêve dans le cosmos, etc., dans l'éternité, dans le ciel, hein, mais il oublie ses racines. Il oublie que la conscience est portée par deux pieds, hein, et qui vont à la vitesse de la marche de l'histoire et pas plus vite. Ah, donc il ne faut pas décontextualiser. Et il faut interroger les discours et les faits dans leur contexte, qui aujourd'hui est un contexte de globalisation. C'est ça, le grand contexte. Hein. Alors je crois que la globalisation, je vous le dirais, elle a eu lieu et qu'elle est faite, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas à réfléchir. Je vous dirais que je pense que la mondialisation n'est sûrement pas finie et que nous avons à repenser la globalisation pour l'inscrire dans la mondialisation, qui pour moi sont deux phénomènes de durée complètement hétérogènes. La globalisation est un phénomène récent, hein, une phase dans une mondialisation qui nous échappe de toutes parts et qui, elle, justement, comme on l'a dit ce matin, commence avec la, n'est que de la préhistoire continuée. Hein. Tandis que la globalisation est un phénomène beaucoup plus nouveau. Et surtout, je pense, alors, contre la thèse de Huntington, qu'au contraire, le choc des civilisations a eu lieu. Je ne veux pas du tout dire qu'il n'y aura pas de conflit. Hein, ça peut toujours renaître. Il peut y avoir des conflits entre les religions, les civilisations, etc. Mais le choc des civilisations a tout à fait eu lieu. Et ce qu'il y a, à mon avis, de plus faux dans cette thèse, par ailleurs tout à fait stimulante, intéressante, et qui est un best-seller mondial, parce qu'elle a été lue tout par tout le monde, y compris les islamistes, hein, qui approuvent cette thèse du choc des civilisations, c'est de nous cacher qu'il a eu lieu. Le choc des civilisations, il a eu lieu avec l'expansion européenne depuis le XVIe siècle, qui n'a cessé de se répéter, de s'approfondir et de se radicaliser. Alors, qu'on le verbalise maintenant, ça c'est une chose, justement. Pourquoi le discours émerge maintenant, dans ce contexte? Mais ce qu'il y a de trompeur dans le texte de Huntington, c'est de nous faire croire que le choc de civilisation serait devant nous, et serait à venir. Non, il a eu tout à fait lieu. Et toutes les civilisations sont totalement ébranlées. Moi, j'en suis absolument convaincu. La Chine, etc., même l'Inde, enfin, qui est pourtant capacité, même l'islam, qui est une forteresse. Mais Dieu sait si le monde musulman est profondément fissuré par ce choc qui a déjà eu lieu. Hein, je crois que c'est un point tout à fait important. Et que partout, il y a eu des ruptures, et il y a des ruptures de transmission, des identités sont devenues problématiques. Qu'est-ce que c'est qu'être chinois? C'est pas beaucoup plus précis ou certain que de savoir qu'est-ce que c'est que d'être catholique ou protestant ou musulman aujourd'hui. C'est des questions qui sont posées à tout le monde. Hein. Et c'est, à mon avis, aussi ce que veulent dire des phénomènes qui sont des tentatives de réponse à ça, comme l'intégrisme, les fondamentalismes ou les processus d'individualisation du religieux qui s'inscrivent dans ce choc et qui y sont des réponses. Voilà pour le premier point. Deuxième point, c'est la mutation des objets, intégrisme, fondamentalisme et individualisation. Les intégrismes, moi, me paraissent d'abord des phénomènes contemporains. Voyez. Là-dessus, je suis tout à fait aux antipodes du discours dominant des médias qui vise toujours à repousser cela comme si c'était un archaïsme sans âge. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'archaïsme, mais précisément, le problème, c'est de penser l'archaïsme contemporain. J'ai toujours un exemple pour dire ça. Je me rappelle toujours avoir entendu à la télévision le compte-rendu d'une nouvelle d'un procès qui avait été scandaleux à Athènes, où on avait acquitté un capitaine grec qui avait jeté par-dessus bord des passagers kényans clandestins. Hein, il faisait la navette entre le Pirée et le Kenya, et puis il y avait des clandestins, etc. Puis ils avaient, bon, alors sans doute que les requins les ont bouffés, hein, et puis, alors, et le procès avait quand même fait scandale, parce qu'il avait ému toutes les ligues de droits de l'homme et autres, parce qu'on avait acquitté ce capitaine. Mais ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'était la façon dont le journaliste présentait la chose, disant ce procès, cet comportement moyenâgeux. Alors déjà, je me suis dit, quand Guillaume le Conquérant prenait le bateau pour aller en Angleterre, le capitaine, la première chose qu'il faisait, c'était de passer Guillaume le Conquérant par-dessus le bastringage. Vous voyez, bon, déjà curieux quand même. Hein. Quand vous preniez le bateau à Venise, hop, le comportement moyenâgeux. Et puis précisément, ce n'était pas un comportement moyenâgeux, parce que c'était tout à fait contemporain. C'était précisément très actuel. Donc ce que nous n'arrivons pas à penser, c'est peut-être archaïque comme attitude, je le veux bien, mais c'est de penser l'archaïsme contemporain. Et c'est ça la question que nous posent peut-être les intégrismes. Il faut d'abord les penser comme des phénomènes d'aujourd'hui. Et ce sont des coproductions. Certains, puisqu'on a pris surtout l'exemple des pays de l'islam, certains idéologues musulmans, et il suffit de lire leur littérature, jouent évidemment un rôle tout à fait important, mais ces idéologues musulmans sont très différents des idéologues organiques classiques qui sont complètement en bisbis avec un certain nombre d'oulémas classiques. Ils ont forgé leur discours dans des conflits avec des États socialistes arabes, Peut-être que le socialisme arabe n'est pas du socialisme, ça on peut en discuter jusqu'à la fin de ses jours, mais en tout cas il s'appelait comme ça, hein, ou des États nationalistes arabes, donc des phénomènes tout à fait contemporains et qui les ont combattus. Et ils se sont forgés leur discours aussi en opposition avec les Occidentaux, hein, avec la colonisation, avec le discours des alliés occidentaux soutenant des régimes souvent dictatoriaux, hein, et puis cette coproduction continue dans nos médias, hein, et dans les opinions publiques. Et donc, vous voyez, on perçoit surtout l'intégrisme dans une espèce de perspective évolutionniste où on refoule ça comme si c'était quelque chose d'indu qui ne devrait pas être là. Moi, je dis toujours aux étudiants, quand on étudie un phénomène social, hein, il faut avoir la modestie de se dire qu'il est là devant nous. Et que si on étudie quelque chose en se disant que ça ne devrait pas être là, hein, on biaise l'étude. Le bon médecin n'est quand même pas celui qui dit au malade « Mais comment vous avez attrapé la grippe, mais alors pourquoi vous n'avez pas mis votre cache-colle, vous n'avez pas mis votre... » Non, docteur, si j'ai la grippe ou un cancer, expliquez-moi pourquoi je l'ai, qu'est-ce qui se passe maintenant. Et c'est là, voilà, je ne vous demande pas un discours pour m'expliquer que ça ne devrait pas être là. Or, le discours des médias, très souvent, face à ça, c'est le discours « ça ne devrait pas être là ». Non, ça gêne votre pensée, ça gêne votre doctrine, ça gêne vos attentes, peut-être, mais c'est là. Et ce qu'il faut penser, c'est le collage, quelquefois un peu surréaliste, mais les artistes ont moins souvent le plus réaliste que les gens qui se disent tels, hein, que nous présente le monde d'aujourd'hui. Un pays comme le Pakistan est absolument hallucinant parce que c'est le collage de la bombe atomique et des lois sur le blasphème, enfin, avec Bibi Asia là, qui est en prison, hein, parce que voilà. Donc c'est tout à fait, et des services de renseignement qui tiennent le pays et qui sont, croyez-moi, très au courant de ce qui se passe sur la planète. Alors, bon, donc, et moi, mon point de vue, c'est que l'intégrisme est moins, comme on le présente souvent, des tentatives de retour en arrière à un état de société passé que des retours de reconstituer un territoire idéal sur un mode défensif. Car c'est le discours de gens qui se croient toujours menacés et qui se croient toujours victimes. Je crois qu'un des traits qu'on ne voit pas assez des intégrismes contemporains, c'est leur refus de la déterritorialisation du religieux. Et ça vient d'un phénomène fondamental qui est que les sciences des religions sont beaucoup plus en dialogue avec l'histoire qu'avec la géographie. Et nous pensons beaucoup plus dans le temps que nous ne pensons le rapport de l'homme à l'espace. Je pense d'ailleurs que l'oubli du rapport de l'homme à l'espace est lié en partie à l'oubli du corps. Parce que c'est quand même le corps qui est d'abord un espace et qui est notre inscription dans l'espace. Et la contrainte de l'espace sur le corps, elle est colossale. Les hommes qui marchaient à pied ne pouvaient pas l'oublier. Nous l'oublions parce que nous montons en avion, hein, ou que nous employons le net. Mais or, nous oublions la territorialisation du religieux. Or, la déterritorialisation du religieux est fondamentale pour que l'État puisse contrôler seul le territoire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ça l'État westphalien. L'État westphalien, dont est sortie la laïcité et la séparation du religieux et du politique, c'est un État qui a réussi à prendre le contrôle des frontières. Il est père aujourd'hui. L'État westphalien, aujourd'hui, il craque de toutes parts, hein, avec la mondialisation. Hein, et l'État, aujourd'hui, perd le contrôle du territoire. Ça, c'est un des phénomènes majeurs. Et ça explique aussi, d'ailleurs, que nous ne sommes pas à l'abri d'intégrisme politique ou de retour de nationalisme sous des formes populistes et autres, parce qu'il y a ce phénomène de déterritorialisation. Je ne peux pas en dire plus, mais je pense qu'il faut attirer l'attention sur l'importance de ce concept. Et donc, toujours les intégristes... D'ailleurs, moi, je m'en avais pris conscience en travaillant Poula et des gens comme ça qui ont écrit sur l'intégrisme français catholique au 19e et au début du 20e siècle, ils ont tous le sentiment d'une expropriation. C'est les méchants protestants, ces méchants juifs qui viennent quand même prendre l'État français. Enfin, qui c'est qu'a fait l'État en France si c'est pas les catholiques? Enfin, c'est notre chose, c'est notre espace. Alors on va pas partager ça avec des hérétiques ou des étrangers, voyez. Donc il y a un processus de déterritorialisation qui me paraît fondamental. Et de refus de la détériorisation. Et c'est pour ça que l'intégrisme est très différent du fondamentalisme, parce qu'au contraire, le fondamentalisme, et c'est pas un hasard si la notion d'intégrisme est surtout d'origine catholique au départ, c'est là qu'on l'a détecté, si vous voulez, la première fois, hein, et nommé et commencé de le décrire, alors que le fondamentalisme est d'abord essentiellement un phénomène protestant, hein, né aux États-Unis, décrit dans ce contexte nord-américain, et qui, lui, au contraire, procède par reconstruction individuelle de néo-identités religieuses tout à fait simplifiées, peut-être appauvries, coupées des traditions vivantes qui ne sont plus vivantes parce qu'elles ne se reproduisent plus, hein, peut-être fabriquées très artificiellement à partir de quelques versets ou de quelques énoncés dogmatiques ou de quelques marqueurs jugés fondamentaux. Mais justement, les fondamentalismes représentent un processus, à mon avis, assez différent et mieux adapté à la mobilité sociale et spatiale contemporaine, en particulier d'ailleurs parce qu'on le voit surtout dans des populations en diaspora, c'est-à-dire à la fois en rupture avec des territoires d'origine et qui acceptent cette rupture, même si, grâce à la mondialisation aujourd'hui, ils peuvent garder des liens, et qui se trouvent dans des situations à la fois de minorité et dans des espaces multiculturels. Et alors, d'ailleurs, c'est tout à fait frappant, me semble-t-il, que le fondamentalisme, au fond, accepte, je dirais, une reterritorialisation sur le corps propre, alors que l'intégriste rêve d'un grand espace perdu. Derrière les intégrismes, il y a l'espace de la chrétienté, il y a l'espace de l'Empire romain, il y a le Dar ou l'Islam, etc. Alors que le fondamentaliste se resymbolise soit sur le corps propre, soit sur un corpus, le texte. Parce que un corpus biblique ou coranique, il est individuel et portatif. Donc, il a une mobilité que n'a pas l'intégriste. Mais dans les deux cas, on est devant des phénomènes de recomposition, de néo-identité et même parfois de syncrétisme. Alors, on peut peut-être maintenant répondre à l'aporie, la religion s'en va ou la religion revient-elle? Je dirais ni l'un ni l'autre, car ce n'est pas exactement la même religion qui s'en va et qui revient. Le dit retour du religieux, d'ailleurs, ne profite pas également à toutes les familles religieuses. C'est bien ça de tenir le plus grand compte. Alors, faut-il garder ou non le paradigme de la sécularisation? Oui, je crois en partie, parce que la sécularisation interne, en particulier des églises, continue, et même la sécularisation externe, au point que Daniel Hervieux-Léger a pu parler à propos du catholicisme en France d'exculturation. Mais je crois qu'il faut modifier le paradigme, et puis il faudra le compléter par d'autres approches, comme je l'ai dit ce matin à propos de Weber, mais il faut modifier le paradigme car on ne peut ramener tous les effets de la modernité sur la religion à la seule sécularisation, conçue comme un phénomène linéaire et univoque, au bout duquel le religieux aurait disparu de la société faute de fonction sociale. Je pense qu'il y a des déstructurations religieuses opérées par la modernité, mais il y a aussi des productions modernes de religieux. La sécularisation a été d'ailleurs mesurée par maintes études précises sur les pratiques et les croyances, mais ça, ces mesures sont en général exactes, et on ne voit pas, par exemple, que les taux de pratique réaugmentent comme ça brutalement, par exemple dans le catholicisme, ou que la crise des vocations soit en voie de se résoudre. Mais, donc il y a une vérité de la sécularisation, c'est indéniable, de la sécularisation interne. Mais c'est la sécularisation comme philosophie de l'histoire qui, elle, pose problème, qui faisait une prophétie qui, au fond, posait un jeu à somme nulle entre modernité et religion. Ce qui serait gagné par la modernité serait perdu par la religion, un petit peu comme dans la lutte de l'instituteur et du curé à l'intérieur de la commune et de la paroisse, ce qui était gagné par l'un était perdu par l'autre. Alors je crois que c'est ça qui ne marche plus. C'est cet optimisme de la modernité qui accompagnait la sécularisation qui est aujourd'hui remis en cause. Je dirais que le dit retour du religieux est à prendre au sérieux, car il est un effet de ce que j'appelle la mutation problématologique et pharmacologique de la modernité. Mais il en est une interprétation inexacte. Et donc j'arrive au troisième point, la mutation problématologique et pharmacologique de la modernité. Alors, cette mutation, elle a été bien marquée, d'ailleurs en d'autres termes, par Jean-Paul Willem il y a longtemps, ne serait-ce que déjà dans sa sociologie de la religion, que sais-je, hein, où il distinguait une hypermodernité, peut-être, et une postmodernité. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? en allant au plus simple. D'un côté, la modernité s'étend et se radicalise. Elle s'étend, la modernité, partout, grâce à l'alphabétisation, à l'émergence de l'opinion publique. Regardez dans les pays arabes, c'est quand même extraordinaire cette émergence de l'opinion publique. Dans des pays où il y a toujours eu une opinion de la rue, mais aujourd'hui c'est une opinion publique, c'est autre chose. Le rôle des nouveaux médias, partout l'attrait mondial pour la société de consommation. Moi, quand j'allais en Inde la première fois, on me parlait de l'indépendance, on me parlait de Gandhi, on était dans une vision politique, militante, etc. Aujourd'hui, vous allez en Inde, la première chose qu'ils vous montrent, c'est le supermarché qu'on vient d'ouvrir au coin. Ce succès mondial de la société de consommation, elle est plébiscitée mondialement. Alors, voilà, c'est le fait, partons-en. Partout, des processus d'individualisation si sensibles autour des changements du rapport au corps. Moi, je crois que là, il y a des phénomènes majeurs. Quand même, réfléchissez à ceci. Dans toute notre culture occidentale, pendant des siècles, le corps a été le symbole du collectif. Le corps d'armée, la faculté encore, c'était quand les professeurs défilaient en toge. Le corps était le symbole du collectif. Alors, je ne parle pas de Saint-Paul, de l'Église Corps du Christ, etc. Mais le corps était le symbole de l'organicité sociale. Aujourd'hui, le corps, c'est le corps propre. D'ailleurs, pour qu'il était, le fait que le corps propre, c'est-à-dire symbole de la singularité individuelle, n'ait été nommé que dans la philosophie du XXe siècle, ça, c'est un phénomène extraordinaire. C'est la phénoménologie qui a articulé ce thème du corps propre. C'est-à-dire que le corps, c'est l'incommunicable de l'individu. J'en ai qu'un, je ne peux pas en sortir. Et je suis vissé, là. Je crois que c'est des phénomènes extrêmement importants et qui nous montrent que la modernité est là, elle est en route, enfin, elle travaille les corps. La critique de la religion continue, soit comme réaction, soit comme exploitation, soit comme violence, etc. Le thème de la critique de la religion est loin d'être épuisé. Ça, c'est bien des héritages modernes. Mais en même temps, la modernité se scinde. Le discours de la postmodernité a sans doute commencé avec Nietzsche, puis Valéry, le fameux texte après la guerre de 14, « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels », y compris la moderne d'abord. Si l'on n'avait pas eu tant de vertus, tant de sciences, on n'aurait jamais été au désastre comme on l'a été en 1914. Donc ça, c'est bien le thème postmoderne qui rentre ici. Mais le débat est certes très confus, entre modernité, postmodernité, tout ce que vous voulez. Mais je crois que ce qui est indéniable, c'est qu'il témoigne d'une scission, je vais dire d'un schisme, au sein de la modernité. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas un schisme sur les valeurs de la modernité. Car au fond, tout le monde est d'accord, même les intégristes sont prêts à défendre leur liberté. Où les thèmes, la liberté, l'égalité, l'individualisme sont des valeurs consensuelles. Ce qui est en doute, ou ce qui fait problème, c'est la capacité de la modernité à réaliser ces valeurs. Autrement dit, c'est le problème de la grâce. La modernité n'a plus la grâce. Ça, les postmodernes. C'est un petit peu comme dans la crise du XVIe siècle. Tout le monde voulait être chrétien. Mais qui peut l'être ? Qu'est-ce qu'il faut pour l'être ? Et où sont les vrais chrétiens ? Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de ça dans le passage de la modernité. Voyez ? Qui est vraiment moderne ? Avant, on savait, c'est celui qui avait une automobile, c'est celui qui... Voilà. Mais aujourd'hui, où est la vraie modernité ? C'est là. Et qu'est-ce qui va la faire ? L'égalité, on en parle depuis bonjour, mais on sait bien que ça ne sera pas le socialisme qui nous la donnera. On sait bien que ce n'est pas le communisme qui nous... Alors où est-ce qu'on va aller la chercher ? Vous voyez ? Et donc, je crois que c'est là. Là est le point de rupture par lequel passe le désenchantement de la modernité. La modernité désenchantée, c'est la modernité sans la grâce, sans la garantie de cette puissance interne qui assure son autoréalisation. Et donc, le progrès qui avait été la solution, donc la réponse, devient lui-même le problème ou la cause des problèmes. Et c'est ça que j'appelle la mutation problématologique. La mutation problématologique, c'est quand ce qui était la réponse devient le problème. Et c'est cela que j'appelle cette mutation problématologique, et donc pharmacologique, parce que ce qui apparaissait le remède peut devenir le poison. Et évidemment, dans les formes les plus radicales de postmodernisme, on accuse le progrès d'être la cause de la crise écologique, etc. Il est devenu le poison. Et donc, ce n'est pas la première fois que se produit ce type de schisme. Hein. Il est fort intégralement réparti sur la planète. Car aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a que l'Europe qui est vraiment, je crois, dans le post-moderne. Hein. Et pas la Chine, hein. Pas l'Inde, hein. Pas les États-Unis, qui sont très divisés. Hein. Je crois que c'est d'ailleurs une des raisons de l'émergence du néoconservatisme. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, je suis obligé de passer. Alors, un des symptômes de ça, je crois, c'est quand même la crise de foi dans la science. Car s'il y a quelque chose qui a porté la modernité, c'est bien la foi dans la science. Et aujourd'hui, les doutes sur le choix des métiers scientifiques, par exemple, qui ne font plus recette, hein, me paraît tout à fait symptomatique de ce type de mutation. Alors, ce type de mutation invite à creuser, me semble-t-il, la notion de pharmacologie. Et on peut prendre le mot, me semble-t-il, en trois sens. Bon, la pharmacologie, c'est d'abord ce qu'on appelait jadis dans les facultés de médecine, la pharmaceutique, c'est-à-dire l'étude des substances, hein, souvent dangereuses, selon leurs vertus curatives ou les dangers de leur emploi, donc les conditions d'emploi, dosage, etc. Bien, ça, c'est la pharmacologie au sens classique. Il y a un deuxième sens que j'ai écrit avec un cas, moi, c'est celui que je propose, qui est un prolongement de la réflexion sur les phénomènes de bouc émissaire, des pharmacoï, pensés comme cause du mal, est devenu protecteur et bienfaisant. Et c'est ce que j'ai dit dans mon livre, hein, le symbolique et le sacré, dans un nombre considérable de pratiques dites magiques ou religieuses, on retrouve un moment apotropaïque, c'est-à-dire il s'agit d'éloigner un danger, hein, un moment cathartique, cet éloignement du danger crée une décharge ou une purification, une catharsis. Le troisième temps, c'est la répétition prophylactique. Hein, on réitère ces procédés-là quand se profile le même danger. Hein, ça pourrait, on brandit la menace pour éloigner le mal. Hein, et je dis, la pharmacologie, dans ce sens, est l'emploi déplacé et réitéré de ce procédé pour, après la disjonction avec les forces négatives, obtenir les bienfaits de la conjonction, comme par exemple dans les rites sacrificiels, où l'unité se refait contre, mais aussi, par du coup, par. Et on retrouve des processus pharmacologiques dans la sorcellerie, évidemment, mais dans la politique, hein, et dans un tas d'autres secteurs. De sorte que, par métaphorisation, je dis, il faut suivre les substitutions du bouc émissaire, ce que j'ai appelé la pharmacocinétique, c'est-à-dire la diffusion du processus dans des processus historiques. Alors, je crois, et c'est ce qui me sépare de Gaucher, que la pharmacologie est le fond commun du religieux et du politique défini par Rambert. La religion basse, hein, ou la politique élémentaire, c'est cette pharmacologie. Et on y revient toujours, et en particulier dans les périodes de crise. Et que c'est seulement quand émerge du religieux par en haut qu'on peut commencer à pouvoir distinguer le religieux et le politique. Et c'est là que j'ai un débat avec Gaucher, dont j'ai discuté les thèses assez longuement dans mon travail. Enfin, troisième sens, on peut appeler pharmacologie toute réflexion sur les propriétés bénéfiques ou maléfiques d'un objet selon les points de vue, les finalités ou les circonstances de son emploi. Et en écrivant ça, j'ai repensé à un des auteurs favoris de mon enfance, dont on ne parle plus parce que c'est vraiment une vieille lune, et bien c'est le vieux La Fontaine. Réfléchissez aux fables de La Fontaine. Qu'est-ce que c'est que La Fontaine? C'est une immense et géniale pharmacologie populaire. Qu'est-ce qu'il dit au roi? Tel roi, tel plus fort, tel plus grand, le lion. Hein? Mais on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Faut pas mépriser le petit parce que hein, la petite dent du rat, ça peut. Voilà. Ben, c'est de la pharmacologie, ça. Qu'est-ce qu'il dit les animaux malades de la peste? Alors là, le bouc émissaire est complètement dedans. Un livre ouvert. Ah, oh, ce pelé, ce galeux, hein, l'âne là, qui vient accuser qu'il a mangé un peu d'herbe chez le voisin alors que le lion a bouffé les hommes. Non, c'est, ouais. Si ce n'est pas de la pharmacologie, ça, qu'est-ce que c'est, hein? Alors, donc on peut l'illustrer par les fables de La Fontaine, mais on peut l'illustrer par des travaux philosophiques. Et j'avoue que j'ai eu un choc en lisant le bouquin d'un philosophe qui, paraît-il, est à la mode maintenant, qui s'appelle Bernard Stiegler, « Ce qui fait que la vie vaut d'être vécue » de la pharmacologie, publié chez Flammarion en 2010. Alors, Bon, je ne vais pas vous résumer le bouquin de Stiegler, vous le lirez vous-même, c'est très touffu. Hein. C'est très touffu, ça part dans tous les sens, mais il y a une pensée très forte quelque part là-dedans. Alors, il doit sa problématique du pharmacon à l'article de Jacques Derrida sur la pharmacie de Platon dans la dissémination. Vous savez comment Socrate présente l'écrit comme le pharmacon de la mémoire, c'est-à-dire un danger, sinon un poison pour elle, car il favoriserait l'hypomnèse, c'est-à-dire un souvenir, une sous-mémoire, un souvenir insuffisant, parce que l'écrit permet de détacher le souvenir de l'histoire de l'âme, et donc évite à l'âme de se remémorer elle-même. Hein. Et donc, ce qui est le but de l'anamnèse, qui pour Platon est libératrice, où l'âme prend conscience d'elle-même. Et donc, alors Derrida s'oppose à Platon là-dessus, parce que Derrida est un défenseur de l'écrit et de la lettre, hein, et donc pense que l'écrit n'est pas seulement hypomnésique, hein, mais le débat est quand même sur la pharmacologie de l'écrit. L'écrit est-il le poison ou l'allié de la mémoire, hein, son support qui compense les trous de mémoire ou ce qui vous dispense, hein, de faire l'effort de vous servir de votre mémoire. Mais surtout, Stiegler constate que Derrida n'a pas vu l'importance de la pharmacologie. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu que la pharmacologie s'étend à tout objet technique. Hein, et qu'il est resté simplement à la technologie de l'écriture. Et Stiegler pense que nous sommes aujourd'hui, alors je lui laisse la responsabilité du mot, dans une situation apocalyptique sans Dieu, au sens où nous avons la capacité de nous détruire. Et cette capacité, pour lui, provient d'une adaptation forcée et non adoptée, c'est-à-dire voulue, de nos modes de vie à une technologie aujourd'hui devenue planétaire. Et il pense qu'il s'ensuit une prolétarisation intellectuelle. Alors, et qui nous rend incapables d'imaginer un autre type de société. Alors, ce qui m'a intéressé dans le propos de Stiegler, c'est qu'il ne s'intéresse en rien à la religion. Et lui, il réfléchit sur la technologie. Et il s'intéresse donc à des pharmacas, et pas du tout à des pharmacoïs, hein, comme le fait Girard ou comme moi je le fais. Et puis, il est entièrement dans le contemporain, il n'est pas du tout dans l'archéologie, comme moi. Mais néanmoins, il y a un rapprochement tout à fait étonnant à faire. Ensuite, je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais il émet une thèse qui me paraît fondamentale pour quiconque veut réfléchir à la subjectivation du religieux. Il émet cette thèse que l'objet transitionnel tel que l'a dégagé le fameux psychanalyste anglais Winnicott est le premier pharmacon, parce qu'il est à la fois un objet extérieur dont la mère et l'enfant sont dépendants, qu'il crée, comme il dit, une relation transductive. Une relation transductive, c'est une relation qui organise et qui crée les termes de la relation. Et que c'est lui qui permet à la mère de se constituer comme mère face à l'enfant et à l'enfant de se constituer comme mère. Alors là, il y a une piste extrêmement intéressante pour réfléchir à l'histoire de la subjectivation religieuse, puisque vous avez là une sorte d'objet de culte, entre guillemets, entre deux personnes, hein, et qui les institue dans leur rôle mutuel, hein, et qui, à mon avis, est ce qui manque aux théories qui veulent penser le religieux uniquement sur le modèle du symbolique comme phénomène de langage. On est là avec l'objet transitionnel dans une figure, je dirais, plus archaïque du symbole. Hein, ça renvoie à un débat que j'ai ouvert dans mon livre au début, là, entre trois formes, il y a trois approches du symbole. Il y a le symbole présence ou réalité, hein, qu'on confond avec la chose, et ça c'est l'objet transitionnel. L'objet transitionnel, c'est le substitut de l'autre bout de la relation. Il y a le symbolique, qui est complètement différentiel, et puis il y a la pragmatique du symbole. Bon, alors je n'ai pas le temps de développer ça, mais je crois qu'il y a là quelque chose qui me paraît intéressant, c'est cette idée qu'il y a à réfléchir à qu'est-ce que peut être une pharmacologie peut-être généralisée aujourd'hui. C'est peut-être par ce biais-là que nous pourrions reprendre le problème de la technique, hein, et le problème du symbolique, et repenser les deux, et dans une perspective, à mon avis, plus incarnée qu'on ne l'a fait aujourd'hui. Et donc, je voudrais conclure sur une pharmacologie de la crise actuelle. On peut conclure que, sur l'esquisse de la pharmacologie de la crise contemporaine, que je vois, moi, lisible à trois niveaux, Bon, il y a un premier niveau que je ne devais pas développer, qui est tout à fait normal. C'est le basculement du monde de l'Occident à l'Orient. C'est-à-dire, c'est la fin de l'époque ouverte par la Renaissance, il y a 5 siècles, de domination occidentale. Le centre du monde retourne en Asie. Bon, c'est un phénomène qui s'explique par des raisons démographiques et autres, qui étaient prévisibles. Le deuxième phénomène, c'est ce que j'appelle le schisme de la modernité. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à saisir, mais c'est le plus important. Et le troisième, c'est ce que j'appelle la refonte des pouvoirs. La refonte des pouvoirs est liée à la montée en puissance et à l'autonomisation du pouvoir économique. C'est cette vérité que Marx avait comprise et sans doute annoncée sous le terme du dépérissement de l'État. Mais comme les marxismes ont créé tant de dictatures, on n'a pas du tout cru au dépérissement de l'État. Mais il se produit justement dans le régime capitaliste. C'est dans le régime capitaliste aujourd'hui que se produit le dépérissement de l'État. Donc là, il y a une pertinence du marxisme. Il y a la crise de l'État-nation, vue par Weber. Weber dit déjà dans des textes aux alentours de la guerre de 14 que l'État-nation est une forme insuffisante par rapport précisément au marché mondial. Mais il y a là une réalité tout à fait inédite et vraiment nouvelle. Car jamais le pouvoir économique n'a gouverné le monde, car justement, le pouvoir économique ne veut pas gouverner le monde. Et c'est ça la crise. Le pouvoir économique n'est pas du tout de même nature que le pouvoir religieux ou idéologique, d'une part, et le pouvoir politique de l'autre. Et c'est là que les catégories de Weber me sembleraient précieuses. Le monde et la réalité de l'économie, c'est le quotidien. L'économie est la science profane par excellence. C'est la seule science humaine purement profane. C'est l'économie. Parce que c'est le monde du quotidien. On bouffe tous les jours. L'économie ne connaît que... Le symbole de ça, c'est que si vous écoutez Carrefour, il faut ouvrir 24 heures sur 24. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Pourquoi voulez-vous faire une coupure ? À tout moment, il y a des gens qui ont faim, soif, qui peuvent acheter, défiler dans un supermarché. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances. L'économie, c'est le quotidien pur, radical. Donc pourquoi voulez-vous couper le temps ? Il n'y a pas d'hétérogénéité du temps. La vie n'est que quotidienne. Les marchés, ça ne s'arrête pas. Et c'est merveilleux que ça ne s'arrête pas. Vous voyez, parce que c'est ça que vous diront les gars. Vous voyez, maintenant, avec le branchement mondial, ça ne s'arrête pas. Donc, le point de départ du religieux et du politique, au contraire, c'est l'extra-quotidien qui doit devenir quotidien. Et donc, vous voyez pourquoi l'économie n'est pas faite pour penser l'extra-quotidien. C'est pour ça qu'elle ne pense pas à la catastrophe. Elle ne peut penser la crise que quand elle est arrivée. Et le lendemain de la crise, les traders sont prêts à recommencer. C'est le quotidien. Alors, je crois que là, il y a des choses qu'il faudrait réfléchir. Et il faut aussi penser les différences entre la violence économique et la violence politique ou religieuse. Car elles ne sont pas du tout de même nature. C'est pour ça que la violence économique est beaucoup plus froide, elle est beaucoup plus rationalisée. Puis son lieu, c'est le travail. Alors que la violence politique ou la violence religieuse a toujours un aspect beaucoup plus exubérant. Elle a un aspect de putsch, elle a un aspect de... Voilà. Et la troisième chose que je voudrais dire... C'est ce que ça change dans l'histoire du libéralisme. Parce que ça met le libéralisme complètement en porte-à-faux. Face aux religieux et aux politiques, le libéralisme s'est élaboré comme une doctrine de la liberté. Et il a réussi d'une certaine façon. Si nous avons des libertés individuelles, si nous avons des droits de l'homme, c'est que la pensée libérale a réussi à penser des garde-fous pour garantir un profane vivable face au débordement de la violence religieuse ou de la violence politique. Mais face à la violence économique, on n'entend plus les libéraux. Ils ne peuvent plus que la nier. Ce n'est pas si grave, c'est le prix à payer. Voilà. Et là, c'est ça qui change. Le statut du discours change complètement. Et donc, je pense que la pensée libérale va se retrouver de plus en plus devant son impensée, qui est quand même, me semble-t-il, la question sacrificielle au sens large. On pourrait lui poser la question que j'ai d'ailleurs posée à Gaucher. Admettons qu'il y ait une sortie de la religion, pour autant que les religions ne sont que des instances, ne sont plus les instances régulatrices de notre monde. Admettons qu'il puisse y avoir une sortie du politique que le système de Gaucher n'a pas du tout prévu, mais que la crise contemporaine du politique initie peut-être. Il y a peut-être un dépérissement de l'État qui serait en route. Mais sommes-nous sortis du sacrificiel pour autant ? Ça, la question. Étant donné que les hommes adorent la force, la puissance et même parfois la violence, mais et c'est là tout le débat, qu'ils ne veulent pas les subir, évidemment, hein, mais leur commander le sacrificiel et la tendance qui est opérante dans toutes les sociétés à transférer le subir et le pâtir, et donc les dommages, sur le voisin, c'est-à-dire le plus faible du groupe, le minoritaire, l'étranger, le pays voisin, l'animal, et aujourd'hui, la nature tout entière. Grâce à la technique, et c'est ça, moi j'ai rien contre la technique, mais il y a quand même un usage sacrificiel de la technique qui consiste à refaire passer sur la nature une partie de la violence humaine. Et ça, c'est ce que n'avait pas prévu Saint-Simon quand il nous disait « on va vers l'âge industriel merveilleux, on n'aura plus à gouverner les hommes, on n'aura plus qu'à manipuler les choses et à administrer les choses ». Oui, mais en même temps, on refile la violence humaine sur le poids des choses. Et c'est là que ça coince. Alors, ce que je voudrais dire, moi, c'est que, me semble-t-il, ce que nous devons envisager pour une sortie de crise hypothétique, parce que personne n'en voit la fin, pas moi le premier, mais c'est que je crois que nous devons repenser l'hétérogénéité des durées. Je crois que ce qui crée l'impasse dans laquelle est notre société, c'est le présentisme et le court-termisme. Si aujourd'hui, il y a une crise vraiment de la pensée religieuse ou politique, c'est parce que nous ne sommes plus capables de nous extraire de l'immédiateté du présent, qui ne permet pas de penser à un monde des cultures et des sociétés, et même de la nature où elle puisse se reproduire. L'homogénéisation des durées sur le présent, et c'est là qu'est, à mon avis, la critique du marché. Moi, j'ai rien contre le marché, au contraire. C'est une source d'enrichissement, c'est tout ce que vous voudrez. Mais il peut faire crever la planète parce que tous ces systèmes d'évaluation sont strictement dans le présent. Donc, nous sommes rivés à l'instant. Et donc, le problème du temps, de la reproduction, reproduction de la culture, reproduction des sociétés, reproduction de la nature et de ses ressources, est au cœur de la crise, et d'abord de la crise énergétique, puisque nous dépensons de l'énergie fossile, hein, ce qui est d'ailleurs une double négativité, puisque nous employons des énergies fossiles pour hâter la consommation. Or, la consommation est un acte de destruction, hein, et employer des énergies fossiles est un acte de destruction. Donc c'est une double destruction et une double négativité. Alors, Lévi-Strauss, il y a maintenant 50 ans, avait alerté sur les dangers de l'homogénéisation culturelle, mais derrière elle, je crois que ce qui est le plus grave, c'est l'homogénéisation des durées et l'alignement des durées sur les plus courtes. Et c'est là que la civilisation occidentale tue les autres, parce qu'elle oblige les autres à se synchroniser avec elle sur le court temps. Or, toutes les civilisations ont été un effort pour gagner du temps et pour allonger la durée. Et là, c'est là que ça coince, me semble-t-il. Et le contact des cultures et la mondialisation imposent la synchronisation sur le temps le plus court, qui réduit l'hétérogénéité des durées, qui est pourtant la condition de la diversité du vivant. Car ce qui fait la diversité du vivant, c'est qu'il y a une multiplicité des durées. Et donc, comment remettre de la différenciation des durées et non pas les aplatir sur les plus courtes? Je crois que c'est de cette question que dépend beaucoup de notre avenir. Alors, j'en conclus tout ça en disant que je crois que la biologie, c'est-à-dire une réflexion sur la violence humaine, et la pharmacologie, c'est-à-dire la capacité qu'a l'homme de transformer sa violence, le poison, en remède, hein, nous impose le dialogue, ce que j'appellerais la dialogie, une pratique de dialogue, et d'abord entre les religions, car tout le monde sent bien que si les religions n'arrivent pas à dialoguer entre elles, on va au clash des civilisations. Mais, et c'est tout le débat, il ne suffit pas de prôner le dialogue pour le réaliser. Il est extrêmement rare et il est extrêmement difficile. Et je crois qu'une des premières difficultés, c'est ce que j'appelle une certaine relation d'incertitude, qui est celle-ci, qui est de nous méfier de nos rationalisations. Toute pensée religieuse, politique ou scientifique, qui travaille à l'intérieur d'une entreprise ou d'un système de rationalisation, ne peut pas en même temps penser la légitimité de cette rationalisation et son coût en termes de violence et de sacrifice, pour autant qu'elle ne le subit pas ou le justifie comme un moindre mal ou comme le prix à payer pour atteindre un bien supérieur. La deuxième raison, c'est comme je l'ai dit ce matin, on ne monte pas aux valeurs et à la défense des valeurs sans risque de fermeture. La sécularisation a été en Europe un processus d'ouverture après un processus extrême de confessionnalisation. La confessionnalisation, c'est la fermeture des religions dans les conflits. Et donc la sécularisation a été aussi un processus extraordinaire d'ouverture de ces confessionnalisations. Mais aujourd'hui, nous sommes devant le risque d'autres fermetures. Tous les théoriciens du libre-échange sont quand même hantés par la perspective du protectionnisme. Et nos démocraties ouverte et se rêvant universel et projeté sur le monde entier, sont hantés par le populisme qui est un phénomène de fermeture. Alors, le problème serait simple si l'on pouvait dire que l'ouverture est toujours une valeur et que la fermeture est toujours une anti-valeur ou une non-valeur. Ou d'ailleurs, on pouvait dire l'inverse. Et c'est pourquoi quelqu'un m'avait dit « Mais t'as jamais écrit un livre de vulgarisation ?» Ben non, j'ai jamais, parce que je pense que c'est pas très honnête d'écrire un livre de vulgarisation avant de se coltiner à l'ampleur des problèmes. Mais si j'écrivais un livre où j'essayais de résumer tout ce dont je vous ai parlé ce matin et dans d'autres circonstances, je crois que je l'intitulerais comme ça. Les individus, les sociétés et leurs religions ne sont pas des portes qui doivent être ouvertes ou fermées. Et c'est bien là qu'est toute la difficulté. Et c'est ça qui nous... ne sont pas des portes qui doivent être ouvertes ou fermées, mais ils sont justement des portes qui sont toujours à la fois ouvertes et fermées. Et donc ce retour à la dialectique, je crois, nous remet devant quelques problèmes d'actualité. Merci de votre attention.